Be you. Be, be proud of you.
Quelle indignité.
Ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je pars, c'est de la poudre de perlimpinpin.
La République, c'est moi.
Politiquement correct sur RCN.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Politiquement Correct, l'émission qui vulgarise l'actualité politique. Cette émission est animée par moi-même, Ambre, et mon camarade Ray.
Salut.
Notre émission a pour but de traiter des sujets récents qui ont fait polémique dans les médias et au sein de l'opinion publique. Le but étant de décrypter ces informations et de revenir sur le contexte dans lequel elles s'inscrivent. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le gouvernement Bayrou ainsi que sur les affaires marquantes de la politique depuis les années 2010. Au programme également l'investiture de Trump et la dangereuse montée du fascisme qui ne concerne pas que les États-Unis. Pour débuter, nous sommes allés à votre rencontre afin de connaître votre avis sur le gouvernement Bayrou.
Je trouve que c'est un peu un cirque et il y a des nouvelles infos genre tous les jours, donc c'est un peu lourd à tout comprendre. Du coup, je suis un peu détachée de ça, mais pour moi, c'est un gouvernement qui ne va pas tenir. Je pense que d'ici les prochains jours, voire semaines, on aura un nouveau gouvernement, donc à voir.
Depuis le 13 décembre dernier, François Bayrou est Premier ministre et en moins de deux mois, il a déjà quelques polémiques à son actif. Mais tout d'abord, qui est François Bayrou? L'ancien ministre de l'Éducation nationale se présente en 2002 aux élections présidentielles. Lors d'un déplacement à Strasbourg, il gifle un enfant de 11 ans car selon ses dires, il lui faisait les poches. En 2007, il crée le mouvement démocrate, aussi appelé Modem. Et c'est en 2017 que le parti est visé par une enquête pour abus de confiance et recel sur les soupçons d'emploi fictif concernant les assistants parlementaires des députés européens du Modem. Cette affaire met en cause 11 contrats présumés frauduleux qui s'élèveraient à un montant de 350 000 euros. En 2024, François Bayrou est relaxé au bénéfice du doute. Dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés qui concerne Marine Le Pen et son parti, François Bayrou trouve très dérangeant et injuste la possibilité que la présidente du Rassemblement national puisse être jugée inéligible. Cela n'est évidemment pas sans rappeler sa propre affaire. En décembre dernier, François Bayrou est donc nommé Premier ministre et nomme à son tour le gouvernement. À la tête du ministère de l'Intérieur, il décide de mettre Bruno Retailleau. Choix qui n'est pas anodin, car la politique de François Bayrou se rapproche chaque jour un peu plus de l'extrême droite, tout comme celle de Bruno Retailleau. Au sujet de l'immigration, François Bayrou entretient une proximité dérangeante avec l'extrême droite, bien qu'il se déclare comme un politicien centriste. Alors François Bayrou est-il vraiment à équidistance de la gauche et de la droite?
Ce lundi 27 janvier, il était reçu sur LCI pour une interview dans laquelle il donne du crédit à la théorie du grand remplacement. Questionné par le député Boris Vallot du PS sur ces termes, ce dernier rétorque que les préjugés sont nourris par le réel. Une bien belle façon de flatter et de donner encore plus de crédit à l'extrême droite. Car cela lui a valu les salutations et applaudissements du RN. Pour rappel, ces termes découlent de la théorie du grand remplacement, cette théorie qui n'a aucun crédit sociologiquement parlant, ni en termes de chiffres. Le porte-parole du PCF, Yann Brossa, a réagi et dit, je cite, ce dont souffre notre pays, ce n'est pas d'une submersion migratoire, c'est d'une submersion de racisme méthodiquement entretenue par le gouvernement qui est là grâce au Front Républicain. Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, est également revenue sur les propos du Premier ministre. Selon elle, ne pas censurer le gouvernement Bayrou, c'est laisser l'offensive raciste de Retailleau continuer. Sébastien Chenu, vice-président du RN, déclare qu'ils ont gagné depuis très longtemps la bataille idéologique. Bruno Retailleau a réagi positivement à la prise de position de François Bayrou, tout comme son prédécesseur Gérald Darmanin.
L'actuel ministre de l'Intérieur et membre du parti Les Républicains se rapproche lui aussi dangereusement de l'extrême droite. Bruno Retailleau a à son actif plusieurs prises de position qui ont fait réagir. Il évoquait sur Sud Radio en 2023 les belles heures de la colonisation. Mais les belles heures pour qui? Rappelons que la colonisation est jugée de crime contre l'humanité par bon nombre d'historiens. Très récemment, il a félicité le groupuscule raciste Némésis et a affirmé être très proche de leur combat. A noter que Némésis est un groupe identitaire d'extrême droite qui est xénophobe, islamophobe ou encore transphobe. Les femmes qui composent ce collectif soi-disant féministe font un lien clair entre immigration et violence sexuelle.
Nous retrouvons évidemment Gérald Darmanin au ministère de la Justice, accusé à de multiples reprises dans des affaires d'agression sexuelle et d'abus de confiance. Nous en avons parlé dans le précédent épisode. Voilà une idée de ce que promet la politique du gouvernement Bayrou. Faisons le point à présent sur une problématique qui soulève bon nombre de questions, la corruption. En 2017, Emmanuel Macron promettait une république exemplaire. Le président avait ouvert son quinquennat en assurant qu'un ministre mis en examen devrait démissionner. Alors qu'en est-il de cette promesse? 7 ans plus tard, le nouveau gouvernement en vigueur nous propose à la carte de nombreux ministres avec des condamnations en justice ou qui font l'objet d'une enquête judiciaire en cours.
C'est en 2013 qu'on remarque un recul dans la promesse de transparence des politiciens. En effet, entre les affaires Cahuzac et Big Malion, les Français ont été servis. Revenons dessus rapidement. Fin 2012, l'affaire Cahuzac éclate. Mediapart avance que le ministre chargé du budget aurait des comptes en Suisse et à Singapour. Au bout de quelques mois, Jérôme Cahuzac reconnaît les faits devant les juges d'instruction et est mis en examen pour blanchiment d'argent provenant de fraude fiscale. Cette histoire est assez risible lorsqu'on sait que quelques jours avant que l'affaire éclate, Jérôme Cahuzac annonçait son projet de réforme pour lutter contre la fraude fiscale. S'ensuit, quelques années plus tard, en 2017, l'inévitable affaire Fillon. Alors candidat aux élections présidentielles, François Fillon se retrouve au cœur d'un scandale. Son épouse, Pénélope Fillon, aurait perçu 600 000 euros bruts entre 1998 et 2013 dans le cadre de sa fonction d'assistante parlementaire. Or, son travail n'est pas prouvé, ce qui présume qu'elle occupait un emploi fictif. Les enfants du couple auraient également été rémunérés pour des missions parlementaires. Une enquête est alors ouverte pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. En 2020, François Fillon est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité.
Ce qui nous amène à notre prochain sujet, et pas des moindres, Nicolas Sarkozy à travers les yeux de la justice. Les ennuis de Sarkozy avec la justice ne datent pas d'hier. En effet, il a à son actif l'affaire Bettencourt, dans laquelle il est accusé en 2010 d'avoir bénéficié de dons illégaux pour sa campagne présidentielle de 2007 de la part de Liliane Bettencourt. Mais nous pouvons également citer l'affaire Bismuth ou l'affaire Big Malion, dans laquelle Nicolas Sarkozy a été accusé de masquer les dépassements de frais de sa campagne présidentielle de 2012. Aujourd'hui, ce ne sont pas ces affaires que nous allons traiter, mais bien l'affaire des financements libyens pour sa campagne au présidentiel de 2007. Comment parler de corruption sans évoquer le champion ? À son actif de multiples scandales financiers et affaires de corruption, Nicolas Sarkozy revient au devant de la scène médiatique dans le cadre de l'affaire Kadhafi. Le pays traverse ce procès important et symbolique de corruption. Alors, qu'en est-il et que s'est-il passé ? Revenant en 2007, Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'Intérieur et candidat à l'élection présidentielle française. 2 ans auparavant, est arrangé un accord par Brice Hortefeux pour un versement non déclaré de 50 millions d'euros de la part du régime libyen de Muammar Kadhafi dans le cadre de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. A savoir que Muammar Kadhafi est dictateur libyen au pouvoir depuis 1969. Vous connaissez la suite, Nicolas Sarkozy est élu en 2007 à la tête de l'État. En décembre de la même année, le président français reçoit à l'Élysée le dictateur libyen Kadhafi. Cette visite est un coup diplomatique important car elle permet la réintégration de la Libye dans la communauté internationale. Cependant, la situation concernant les droits de l'homme en Libye suscite des réactions. Entre restriction des libertés civiles et politiques, emprisonnement arbitraire et actions violentes contre les dissidents, la Libye fait parler au niveau international. Petit bond dans le temps, on est en 2011. Quand Mediapart décide de rendre public ses documents sur l'accord passé entre les deux politiciens avec la complicité de leur entourage politique. Cette révélation est l'effet d'une bombe et met en lumière Béchir Salah, l'ancien trésorier de Kadhafi, qui était recherché par Interpol. La révolution libyenne se déroule dans la même année et entraîne la chute du régime Kadhafi. Il faudra attendre 2018 pour que Nicolas Sarkozy soit mis en examen pour corruption, recel et détournement de fonds publics libyens.
Plus récemment, en janvier 2025, le procès est ouvert pour l'ancien président et 12 autres prévenus, dont 3 anciens ministres. Le procès doit durer 3 mois. Alors que raconte cette affaire de corruption ? Déjà que Nicolas Sarkozy a été élu en partie grâce au financement illicite de sa campagne. De plus, l'ancien président est familier avec la corruption, il n'en est pas à son coup d'essai. Cela marque une profonde fracture entre les politiciens, coutumiers de ce type d'affaires, et les Français qui sont les premiers à subir cette prise illégale d'intérêt. Pour rappel, le mandat de Sarkozy, c'est 150 000 fonctionnaires en moins et une dette publique qui augmente largement à hauteur de 51 milliards d'euros. Maintenant, qu'attendait Kadhafi en retour ? Le dictateur libyen était à la tête d'un pays mis au ban par les Nations Unies depuis des décennies. Il faut aussi revenir rapidement sur les attentats commandités par Abdallah Senoussi dans les années 1980. Un de ces attentats avait pour cible un avion français et a tué 170 passagers, dont 54 Français. Kadhafi espérait que son État réintègre les nations. La France, pays des droits de l'homme et victime des attentats libyens, représentait une porte d'entrée très précieuse. En plus de cela, il devait y avoir des accords économiques permettant à la Libye d'acquérir du matériel de surveillance, entre autres. Si l'enquête a mis autant de temps à avancer, c'est parce qu'elle a demandé la coopération de 17 pays. Nicolas Sarkozy encourt actuellement jusqu'à 10 ans de prison, 375 000 euros d'amende et une inéligibilité allant jusqu'à 5 ans. Avec ce genre de comportement, il semble logique que la méfiance des Français à l'égard des acteurs politiques grandisse.
Nous sommes allés à votre rencontre pour vous interroger sur la montée des idées d'extrême droite.
Je trouve que ça fait quand même un petit peu peur de voir que ça monte par-ci par-là, de tous les côtés. Et ça risque d'être problématique vraiment très rapidement.
La fascisation politique en Europe va de pair avec une dérive droitarde marquée. Nous assistons à la fin d'un système libéral, ou plutôt néolibéral, qui tend progressivement vers un fascisme ambiant. Aujourd'hui, liberté et fascisme s'entremêlent, car la droite s'est appropriée le libéralisme en réinventant sous une forme nouvelle, libertaire pour certains, mais néanmoins liberticide pour d'autres. Lorsqu'on écoute les propos de Bruno Retailleau, on retrouve l'essence même du fascisme, notamment à travers la notion de peuple souverain, qui segmente la société en deux camps opposés. Prenons l'exemple de la liberté de culte. La laïcité, initialement pensée pour protéger la diversité religieuse et garantir la neutralité de l'État, semble aujourd'hui dériver vers un laïcisme rigide et excluant. Ce principe, autrefois garant du pluralisme, devient parfois un outil de domination servant à marginaliser certaines communautés sous couvert de défense des valeurs républicaines. Le printemps républicain illustre bien cette instrumentalisation, notamment dans son rapport à l'islam, où la lutte contre le communautarisme et l'extrémisme se confond avec une stigmatisation plus large des musulmans. Ainsi, la laïcité, qui devait être un facteur d'émancipation et d'égalité, se transforme progressivement en une arme idéologique alimentant division et exclusion. En partant de ce postulat, cette dérive européenne qui normalise la xénophobie et la haine de l'autre se décrédibilise. Il est nécessaire de se questionner et de questionner sur la place de l'homme dans cette exacerbation des rapports avec l'autre, au détriment de la construction universaliste de ce dernier. Pour illustrer le propos, penchons-nous d'un peu plus près sur la situation politique européenne.
Cette montée idéologique s'accompagne également dans les chiffres de la représentation parlementaire européenne. Lors des dernières élections européennes du 6 au 9 juin 2024, le Parti populaire européen reste majoritaire avec 184 sièges, en légère progression. Les socialistes conservent leurs 139 sièges, tandis que Renew Europe subit une forte baisse. La gauche et les Verts perdent également des élus. En revanche, l'extrême droite progresse. Les conservateurs et réformistes gagnent 4 sièges pour un total de 73 et deviennent le troisième groupe du Parlement, tandis que l'identité et démocratie en gagnent 9, atteignant 58 eurodéputés. Cette représentation parlementaire met en évidence une montée populiste de cette idéologie. En France, lors de ces élections, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête avec 31% des voix et un gain de 8 points. Étant donné que le sujet de la normalisation de la montée du RN en France a été traité à l'épisode 1 avec profondeur, nous allons essayer d'illustrer cette mouvance et de mettre en lumière cette fascisation dans d'autres pays européens.
Récemment, l'Angleterre assistait à ses plus grosses émeutes depuis celle de 2011 contre les violences policières. Cette fois-ci, la situation semble s'inverser avec les fascistes déterminés à faire valoir leurs revendications. Des hôtels ayant pour réputation d'accueillir des migrants ou encore mosquées ont été touchés par des attaques et des actes de vandalisme. Des rassemblements en solidarité à la communauté musulmane s'organisent afin de protéger certains lieux de culte menacés par les islamophobes. Des mouvements anti-immigration d'extrême droite s'organisent dans le pays et ce depuis plusieurs années maintenant. En 2016, un centre d'accueil pour migrants à Douvres était visé par une attaque que la police a qualifiée de terroriste. Tous ces événements surviennent lors de la montée du Parti travailliste au pouvoir. L'extrême droite a pour stratégie la récupération politique et ses membres n'hésitent pas à attiser la haine envers les réfugiés. À Southport, le meurtre de 3 fillettes par un jeune homme dont la famille a des origines rwandaises est un drame isolé et utilisé à des fins de récupération politique. Ces émeutes sont une réponse de la part des fascistes à un gouvernement jugé trop progressiste sur les lois d'immigration.
L'Italie, elle aussi, se laisse séduire par le fascisme. Mais l'histoire du pays, avec cette idéologie, remonte à 1922, lorsque Mussolini accède au pouvoir. Depuis son assassinat en 1945 par des résistants antifascistes, un hommage annuel lui est dédié dans son village natal. Des ouvrages à son effigie paraissent encore, des produits dérivés du dictateur sont toujours en vente, et ses partisans se réunissent régulièrement. Le salut nazi est même redevenu une mode, avec des rassemblements de plus de 1500 personnes. Le Parti démocrate italien combat l'usage de ce geste et demande la dissolution des groupuscules néofascistes. De l'autre côté, le parti d'extrême droite Frères d'Italie est présidé par Giorgia Meloni, dont la popularité ne cesse de s'accroître jusqu'à sa présidence au Conseil des ministres. Elle dénonce une islamisation de masse et s'oppose fermement à l'accueil des réfugiés. Elle milite ouvertement contre le droit à l'avortement et le mariage homosexuel. Comme l'illustrent ces deux exemples précédents, le fascisme s'exporte facilement en Europe et même au-delà malheureusement. les acteurs majeurs de l'extrême droite européenne étaient quasiment tous conviés à l'investiture de Trump ce 20 janvier dernier. On y retrouve Marion Maréchal, une délégation de l'AFD, et Nigel Farage. Il est clair que l'idéologie de ces derniers trouve une résonance dans le conservatisme du président américain.
L'investiture de Donald Trump reste l'un des événements politiques les plus médiatisés, marqué par la controverse. Cette controverse réside autant dans la responsabilité clivante de Trump que dans les événements politiques ayant entouré cette cérémonie. Après une victoire électorale nette, les États-Unis confient pour la seconde fois les rênes de la Maison-Blanche à Donald Trump. La cérémonie d'investiture organisée le 20 janvier à Washington a réuni, outre des membres de l'administration Trump et du gouvernement sortant, plusieurs figures majeures de l'industrie numérique, telles que Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. Ces partisans de la doctrine Make America Great Again, MAGA, ont joué un rôle déterminant dans la campagne de Trump, lui apportant un soutien médiatique et financier considérable. À titre d'exemple, Elon Musk a investi 75 millions de dollars dans la campagne du 47e président des États-Unis. Cet épisode politique, aussi important que dangereux, met en avant l'ascension au pouvoir d'un conservateur de la première heure, oppresseur des droits et proche du suprémaciste racial qu'il veut faire incarner dans ses administrations. Par une interprétation fantasmée et falsifiée de l'histoire des États-Unis, l'auteur d'agressions sexuelles maintenant président manipule cette histoire pour légitimer son projet autoritaire de restauration d'une grandeur nationale supposée, construite sur l'exclusion, la division et loin des procédés démocratiques.
Son discours d'investiture, saturé de triomphalisme et de rhétorique populiste, masque des politiques profondément controversées et moralement discutables. Très vite, il s'appuie sur une série de décrets ciblant des populations vulnérables. Il criminalise les sans-papiers, instaure des mesures violentes contre les migrants et renforce la marginalisation de communautés déjà opprimées. En parallèle, son administration engage une croisade réactionnaire visant à limiter les droits des minorités, à démanteler les acquis sociaux liés à la question des genres et à s'attaquer à ce qu'il qualifie de « wokisme », un terme instrumentalisé pour décrédibiliser les luttes progressistes. Plus troublant encore, il n'hésite pas à instrumentaliser des figures historiques comme Martin Luther King pour maquiller son agenda réactionnaire dans un paradoxe hypocrite et insultant. Sur le plan international, Trump adopte une posture belliqueuse en proclamant vouloir restaurer l'hégémonie américaine par des moyens militaires et économiques agressifs, ignorant délibérément les nuances nécessaires au maintien de la stabilité mondiale. Ce retour à une diplomatie de confrontation s'accompagne d'un mépris affiché pour les enjeux environnementaux. En rejetant les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique, il affirme sa préférence pour une vision court-termiste et destructrice de la planète, au détriment des générations futures. Cela est illustré par sa volonté d'accentuer le recours aux énergies fossiles.
L'épisode glaçant du salut nazi de Elon Musk lors d'une cérémonie officielle cristallise les orientations idéologiques sous-jacentes de cette administration. Ce geste, empreint d'une symbolique nauséabonde, ne laisse aucun doute sur la direction inquiétante empruntée par la politique américaine. Il illustre plus que tout la normalisation progressive du discours et d'actes autrefois impensables dans l'espace public. Le fondateur de Tesla entretient des liens étroits avec l'AFD, fait office d'un soutien confirmé à ces derniers en étant présent à leurs meetings et en tenant des propos qui donnent plus de précision vis-à-vis de l'idéologie du milliardaire. Son geste à l'investiture de Trump ne laisse pas de doute quant à sa signification. En plus de propos polémiques tenus au meeting du parti d'extrême droite allemand. Cela est désolant dans un contexte où l'Europe fête les 80 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Ce tournant politique, par son cynisme et son autoritarisme, marque une rupture profonde avec les idéaux fondateurs des États-Unis. Il interpelle sur la fragilité des démocraties face à la montée des leaders populistes et réactionnaires, et sur l'urgence de défendre des valeurs universelles de justice, d'égalité et de liberté contre les forces qui cherchent à les éradiquer. Après avoir parlé des États-Unis, tournons-nous maintenant vers un de leurs alliés indéfectibles, j'ai nommé l'État d'Israël.
La politique de Donald Trump est loin d'être incompatible avec celle de Netanyahou. Malgré une condamnation par la Cour pénale internationale, le dirigeant israélien s'est rendu ce mardi 2 février à Washington. Les États-Unis représentent des alliés centraux dans le combat que mène Israël en Palestine. Ils participent ouvertement et pleinement au financement de l'armée sioniste, et ce à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. La volonté d'Israël d'éradiquer la population palestinienne de la bande de Gaza n'est plus à nier. Pour reprendre les termes de l'ONG Human Rights Watch, il s'agit bien d'un nettoyage ethnique. Les intentions du premier ministre israélien sont claires. Coloniser la Palestine et faire de ses terres les siennes. Pour revenir sur l'idéologie sioniste, il s'agit d'un mouvement nationaliste ethnique Ici, il est question de l'autodétermination politique du peuple juif. Le but étant de conquérir la terre promise d'Israël. Le problème étant que cette terre se situe en Palestine, mais cela ne semble pas arrêter l'idéologie sioniste qui gagne du terrain, surtout suite au génocide durant la Seconde Guerre mondiale. L'État d'Israël finit par voir le jour en 1948, suite à l'épisode de la Nakba, à savoir l'exode forcé des Palestiniens. Depuis ce jour, on peut parler d'une Nakba continuelle, car l'État autoproclamé d'Israël continue sa quête de terrain encore à ce jour. La Nakba qualifie le processus de confiscation continue et prolongée des terres, mais aussi des biens matériels, et surtout elle qualifie la destruction toujours en cours de l'identité palestinienne. Le terme Nakba est par ailleurs interdit dans les manuels scolaires en Israël. Une véritable réécriture de l'histoire coloniale est opérée. Dans ce processus de suppression de l'identité palestinienne, on retrouve la déshumanisation du peuple de Palestine. Revenons sur les événements du 7 octobre 2023, lors desquels le Hamas, un mouvement de résistance islamique, attaque des civils israéliens et des installations militaires israéliennes. 1140 personnes perdent la vie et 240 autres sont prises en otage. Cette attaque terroriste est une réponse à la politique du gouvernement israélien. Suite à cela, l'état de guerre est déclaré et l'armée israélienne évacue les civils proches de la bande de Gaza. La Palestine est alors prise pour cible et fait l'objet de nombreux bombardements. Au total, depuis ce jour, ce sont plus de 47 000 Palestiniens qui sont tués par Israël. Alors comment expliquer une réponse aussi violente? L'objectif de l'État d'Israël était de démanteler le Hamas. Le problème, comme bien souvent, c'est que les civils payent de leur vie de telles décisions. Sauf qu'ici, un cap a été franchi. Des dizaines de milliers d'enfants sont morts et la Fédération internationale des droits humains n'a eu d'autre choix que de qualifier le conflit israélo-palestinien de génocide. Netanyahou est clair dans ses intentions, il faut éradiquer la Palestine. Il refuse toute perspective d'un État palestinien. Il n'envisage qu'une occupation éternelle des terres palestiniennes. On ne peut plus parler ici d'une lutte contre le terrorisme.
L'armée israélienne a souvent fait l'objet de polémiques durant les heures sombres du génocide palestinien. Des photos de soldats manipulant les effets personnels de victimes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ils se mettent en scène dans des appartements et maisons, parfois allant jusqu'à exposer les sous-vêtements des femmes palestiniennes. L'armée israélienne est très présente dans les médias. Plusieurs plateaux télé ont donné la parole au porte-parole de l'armée. La chaîne de télévision I24 News, axée sur le Moyen-Orient, est considérée comme favorable aux idéologies que promulgue Netanyahou et est souvent critiquée à cause de la position de sa ligne éditoriale. À vrai dire, on peut même parler de propagande à cause de régulières invitations d'anciens officiers de l'armée israélienne. A contrario, très peu d'informations sont diffusées concernant les victimes civiles palestiniennes. Des propos graves ont été tenus sur la chaîne, qualifiés d'incitation à la haine raciale et d'islamophobie. Le Conseil français du culte musulman parle d'apologie de crimes de guerre. Entre l'invitation de Netanyahou sur la chaîne LCI et la livraison à hauteur de 30 millions d'euros d'armes pour l'armée israélienne, le soutien de la France envers Israël n'est plus approuvé. Pour conclure, à travers ces différents sujets, nous avons montré certaines limites du système néolibéral et les dérives qu'il entraîne en termes de corruption, fascisation. Cet épisode de Politiquement Correct présenté par Ambre et moi touche à sa fin. Vous donnons rendez-vous mercredi prochain. Salut.
Salut.